Actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et depuis 10 heures, vous réagissez à l'attentat commis hier soir à Nice. On va continuer évidemment à en parler ensemble et puis on passera à d'autres sujets qui ont retenu votre attention cette semaine dans l'actualité française, africaine et internationale. 33 9 693 693 70. C'est toute la France qui est sous la menace du terrorisme islamiste, a déclaré cette nuit le président François Hollande. Nous devons tout faire pour lutter contre le fléau du terrorisme, a insisté le chef de l'État français, François Hollande, qui dit vouloir renforcer l'action de la France en Irak et en Syrie. Il a également annoncé la prolongation de l'état d'urgence. Nicolas, vous nous appelez de Kigali, vous êtes au Rwanda. Bonjour Nicolas.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI et toutes mes pensées à toutes les victimes de cette horrible attaque qu'on a connue ce matin.
Merci pour elle. Vous souhaitiez prendre la parole, on vous écoute.
Oui, justement, Juan, moi, j'ai été très, très choqué comme beaucoup de gens. J'ai découvert les images juste le matin et c'est la colère qui anime quelqu'un quand on découvre ce genre d'images, quand on voit que des gens peuvent tuer autant de gens. Pour quelle raison? Ben, pour une idéologie sans fondement et surtout la violence avec laquelle ça s'est fait. Donc, moi, je pense que tout ce qu'ils vivent, c'est quoi? Ben, c'est empêcher tout un peuple de vivre, empêcher vraiment les gens d'être tout simplement eux-mêmes. On se souvient qu'il y a Daesh, il y a quelques temps, ils avaient déjà annoncé que l'euro, ça sera, ils vont en faire un bain de sang. Mais puisque ça n'a pas eu lieu, je pense qu'ils essayent de voir comment semer le chaos aussi ailleurs. Et donc, notamment, voilà, essayer d'empêcher les gens de se rassembler, de faire la fête, comme c'était le cas hier soir à Nice.
Je précise tout de même, excusez-moi Nicolas, je précise tout de même que cette attaque n'a pas encore été revendiquée, mais c'est vrai que très rapidement la piste terroriste a été privilégiée. D'ailleurs François Hollande a déclaré que le caractère terroriste de cette attaque ne pouvait pas être nié, déclaration faite en pleine nuit. Évidemment tous les regards se portent vers Daesh, vers l'organisation de l'État islamique, d'autant qu'un message diffusé il y a maintenant deux par le porte-parole officiel de Daesh encourageait ceux qui le souhaitaient à utiliser n'importe quelle arme disponible et y compris des véhicules pour commettre des attentats. Et le djihadiste de Daesh qui a assassiné avec un couteau le mois dernier, vous en souvenez certainement Nicolas, il avait assassiné un policier et sa femme, avait déclaré si vous pouvez pas faire sauter avec une bombe ou tirer une balle, eh bien débrouillez-vous, renversez-les avec une voiture. Fin de citation. Ne raccrochez pas Nicolas, Caleb, nous appelle de Kinshasa. Bonjour Caleb.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous.
On vous écoute.
Oui, Juan Gomez, en tout cas, je suis bouleversé ce matin. Je suis plus que jamais français ce matin après cet acte lâche, cruel, barbare qui s'est produit hier à Nice. Alors que les Français étaient en pleine fête du 14 juillet, les Français qui par millions étaient réunis libres dans la fraternité, mais voilà que cet acte vient gâcher la fête. Je suis vraiment désolé et je regrette que ce soit la France qui soit touchée, alors que cette France est toujours aux côtés des populations qui sont dans le besoin, notamment en Centrafrique, au Mali ou en Irak. Le président François Hollande l'a même rappelé que la France sera engagée davantage en Irak contre le terrorisme. Mais quand c'est la France elle-même qui vient au secours des populations et touchées en pleine fête nationale, je manque même de mots pour décrire cet acte Juan Gomez. Mais j'allais profiter de cette parole que vous m'accordez pour lancer un message à tous les Français, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, nous sommes avec eux. Cette attaque n'est pas seulement, ne concerne pas seulement la France, elle nous concerne nous tous qui sommes engagés pour la liberté. Vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité. La France et nous tous, nous ne serons jamais intimidé. Donc, j'appelle donc la communauté internationale à plus d'unité contre les terrorismes pour que des innocents ne puissent plus jamais mourir dans des circonstances pareilles.
Merci beaucoup, Caleb. Merci de ce message de soutien. Vous êtes nombreux, d'ailleurs, à envoyer des messages pour soutenir le peuple français. La France doit rester debout. C'est en substance ce qui ressort de vos nombreuses réactions sur nos réseaux sociaux. Jean, bonjour.
Oui, bonjour. Vous m'entendez bien ?
On vous entend parfaitement bien. Vous êtes à Marseille ?
Absolument.
On vous écoute. Oui.
Eh bien, moi, je voudrais réagir, d'abord dire mon choc, l'effroi que j'éprouve. Moi-même, j'ai des enfants et j'aurais pas pu me retrouver à Nice puisque je suis à Marseille. Mais c'est lorsque récemment, là, au cours des manifestations de l'euro, je dois dire que je regardais la sortie, je préparais j'étais inquiet. Ces attentats à Nice me choquent profondément. Mais en même temps, je voudrais dire que je trouve qu'on assiste en ce moment à une stigmatisation des musulmans partout en France et que la réaction de la France ne semble pas aller dans le bon sens. C'est-à-dire, je pense que tous ces attentats, en fait, ils servent ceux qui veulent semer la discorde entre qui veulent stigmatiser justement les musulmans qui sont parmi nous. Et de ce point de vue-là, notre réaction, ça devrait être une réaction où on leur tend la main.
Excusez-moi, Jean, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une volonté de tendre la main ? Vous parlez de stigmatisation des musulmans, peut-être au sein d'une partie de la population française, on ne va pas le nier, mais on ne peut pas généraliser non plus, Jean.
C'est-à-dire, oui, effectivement, on ne peut pas généraliser, parce qu'on ne peut pas dire que tous les Français sont... Il y a encore des Français qui aiment les musulmans, heureusement. Mais le problème, c'est que moi, ce que j'observe autour de moi, c'est que on entend de moins en moins de voix tolérantes et des propos qui deviennent révoltants d'amalgame. En revanche, on les entend de plus en plus. Il devient de plus en plus admis de dire. Plus personne ne hausse les sourcils lorsqu'on dit que l'islam est une religion d'intolérance. Maléfique, alors qu'au contraire, l'islam, c'est notre meilleur allié contre ce genre de fanatisme et d'intolérance.
Bon, c'est votre perception, hein, et votre regard de la société française, évidemment, Jean. Merci de nous avoir appelés de Marseille. Merci à vous tous. On aura l'occasion, évidemment, de revenir sur cet attentat commis hier soir à Nice, tout au long de la journée, avec nos envoyés spéciaux, nos experts, et toute la rédaction des RFI, évidemment, qui se mobilise pour vous informer heure par heure. Le Premier ministre français Manuel Valls vient de s'exprimer. Ah, on me fait signe qu'on a une réaction d'un auditeur d'Australie. Eh bien, on va l'accueillir. Amadou, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan. Et puis, je vous appelle juste pour présenter mes condoléances au peuple français et puis surtout aux gens de la ville de Nice pour dire que je leur présente mes condoléances et dire que ces gens qui commettent ce genre de crime n'est pas des religieux, c'est tous des criminels. Ça n'a absolument rien à voir avec la religion musulmane. Je suis musulman, je vis dans ce pays depuis 26 ans. Je vivais à Paris dans les années 80 jusqu'en 90. Mais les mots me manquent. Les mots me manquent.
Oui. En tout cas, merci d'avoir fait l'effort de nous avoir appelé d'Australie. Vous êtes dans quelle ville exactement ?
Je suis à Perth, à l'ouest.
D'accord. Merci Amadou de cet appel. Vous continuez évidemment à réagir sur les réseaux sociaux. Je le disais avant d'accueillir Amadou que Manuel Valls a pris la parole. Il s'est exprimé il y a quelques minutes et un deuil national de 3 jours a été annoncé à partir de demain et jusqu'à lundi, donc après l'attentat qui a fait au moins 84 morts. C'est le dernier bilan officiel pour l'instant. Des dizaines de blessés, 18 sont encore en urgence absolue. Autre réaction au standard, on va parler d'un tout autre sujet puisque vous souhaitiez également nous interpeller notamment sur la situation en Centrafrique avec la fin de l'opération militaire française Sangaris. Hein, François Hollande l'a annoncé cette semaine. La France mettra officiellement fin à cette opération au mois d'octobre. François, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Vous êtes à Bangui, en Centrafrique, et vous êtes très inquiet, vous, après l'annonce du président Hollande.
Oui, je suis très inquiet parce que, bon, c'est vrai, la France, qui est souveraine, à un moment avait décidé d'intervenir en RCA, son ancienne colonie. Voilà, maintenant, cette même France souveraine décide que cette assistance doit prendre fin d'ici octobre, comme vous l'avez annoncé. Et moi, ça m'inquiète beaucoup, comme beaucoup de Centrafricains, dans la mesure où, jusqu'à aujourd'hui, l'embargo sur les armes n'est pas encore levé, que les forces armées centrafricaines ne sont pas encore équipées, et que les forces onusiennes, elles, sont pratiquement incapables d'assurer la sécurité, tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays. Et le départ de la force Sangaris m'inquiète particulièrement.
C'est-à-dire que vous avez François, vous avez l'impression aujourd'hui que sur le plan sécuritaire, votre pays dépend exclusivement des casques bleus de la MINUSCA, dont vous semblez mettre en doute leur capacité à réagir. Il y a tout de même 12 000 casques bleus déployés dans votre pays. C'est insuffisant? Vous avez l'impression qu'ils ne sont pas suffisamment bien formés également?
Suffisamment bien formé, je pense bien, parce que comment expliquer que des exactions, des attaques se commettent au vu et au su de ces forces onusiennes, notamment à Bambari, à Kagapandoro, etc. Elles sont équipées, ces forces-là. 12 000 hommes seraient pu suffire. Mais seulement, est-ce qu'il y a la volonté réelle d'apporter la sécurité, d'amener la sécurité? Moi, c'est la question que je me pose.
Donc, vous craignez un regain de violence après le départ des forces françaises?
Je crains cela, parce que, imaginez-vous, les forces sangaristes ne sont pas encore parties. Il y a déjà, même au sein de la capitale Bangui, il n'y a pas longtemps, vous êtes au courant, RFI en a suffisamment parlé, l'enlèvement des 6 policiers au PK5 par des éléments de l'ancienne Séléka ou bien du néo-Séléka, voilà. Donc, je suis très inquiet, comme beaucoup de Centrafricains.
Vous n'êtes pas le seul à être inquiet, en tout cas au standard RFI. Cyril nous appelle également de Bangui, après avoir entendu justement la fin officielle de l'opération Sangaris à partir du mois d'octobre. Bonjour Cyril.
Bonjour Juan.
Nous vous écoutons.
Juan, je pense que l'opération Sangaris était décrétée en Centrafrique dans le but de désarmer toutes les forces non conventionnelles en présence, qu'il s'agisse d'Antibalaka ou bien de Séléka. Et si cette opération doit prendre fin, comme l'a annoncé le président Hollande d'ici le mois d'octobre, pour moi, ça serait un véritable échec, dans la mesure où toutes ces forces ont encore les armes par-devers elles, et puis elles sont libres de leur mouvement. Les Séléka ont eu tout le temps de se regrouper à Kakabandoro, à Bria, à Bambari, et ils continuent à faire des exactions sur les populations civiles. Et aujourd'hui, on voit que l'armée nationale, la FACA, est désarmée. C'est sur cette armée aujourd'hui qu'il y a l'embargo de la communauté internationale. Donc notre armée n'est pas formée en ce moment, elle n'est pas équipée, et elle n'a pas les capacités pour pouvoir défendre les populations civiles.
Alors que la reconstruction de l'armée centrafricaine était une des priorités du président Touadéra, élu il y a 4 mois. Il vient à peine d'ailleurs de franchir le cap des 100 premiers jours au pouvoir. Et d'ailleurs, à cette occasion, il a prononcé un discours, c'était dimanche dernier. Et il a clairement dit que la situation en Centrafrique était toujours en danger, avec des régions entières contrôlées par des groupes armés. Voilà ce qui donne, ce qui permet au moins de voir que la situation sur place est toujours très inquiétante sur le plan sécuritaire. Et il a, une fois de plus, comme vous, François, et comme Cyril également, demandé la levée de l'embargo sur les armes pour pouvoir équiper l'armée centrafricaine. Merci à tous les deux. On va parler du Togo. Depuis le début de la semaine, une centaine de personnes réfléchit à la manière de réformer la Constitution. C'est l'un des thèmes qui divise la classe politique togolaise, c'est la réforme constitutionnelle. Bonjour Sam.
Bonjour Juan Gomez, bonjour aux auditeurs de la Radio Mondiale.
Et comme beaucoup de Togolais, vous suivez de près ces discussions. Alors, quand je parle d'une centaine de personnes, il y a des juristes, des intellectuels, des hommes de la classe politique également. Il y a beaucoup de monde pour essayer de modifier la Constitution. Et vous faites partie de ceux qui disent que la réforme est nécessaire. Il faut réformer aujourd'hui cette Constitution qui est source de divisions, de conflits dans votre pays.
Ah oui, vous savez, Juan Gomez, le Togo est en train d'écrire de nouvelles pages de son histoire en ce moment, avec la rencontre qui se tient en ce moment à l'hôtel Radisson Blue, dans la capitale togolaise, où les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les intellectuels, les juristes et tous ceux qui sont impliqués dans la vie politique du Togo sont rassemblés. Et nous pensons que cette rencontre a pu avoir lieu par la volonté politique d'une seule personne, c'est le chef de l'État actuel, qui, rappelons-le, avait hérité d'un mandat présidentiel illimité, qui avait hérité d'un scrutin, d'un mode de scrutin à l'élection à un tour. Et aujourd'hui, il manifeste une volonté ferme d'aller de l'avant et de revoir la Constitution, de modifier les points.
Donc pour vous, Samuel, pour vous, le président de la République respecte donc la parole donnée. L'opposition, ça fait des années qu'elle réclame, par exemple, une élection présidentielle à deux tours. Est-ce que, pour vous, cette modification est nécessaire?
Oui, c'est une nécessité parce que le chef de l'État, rappelez-vous, en 2015, avant le scrutin présidentiel, c'était une promesse de campagne. Il avait annoncé qu'il allait passer à la réforme de la Constitution, aux réformes politiques et institutionnelles et constitutionnelles, juste après l'élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est chose faite. Mais malheureusement, ce à quoi nous assistons, c'est que tous les partis politiques sont représentés à cet atelier, sauf deux. L'ANC de Jean-Pierre Favre et la CDPA de Brigitte Kafia-Damagou.
Deux partis de l'opposition.
Brigitte Kafia-Damagou, naturellement. Les partis d'opposition.
Deux partis de l'opposition.
La CDPA n'a pas un point.
Ouais. Oui. Un mot, Sam, avant d'accueillir d'autres auditeurs sur un autre sujet. La Constitution ne limite pas le nombre de mandats présidentiels. Est-ce qu'il faut limiter désormais?
Ah oui, c'est important parce que vous savez, quand on regarde un peu autour de nous dans la sous-région, nous sommes le seul pays où le mandat présidentiel n'est pas limité. Et donc le chef de l'État manifeste actuellement sa ferme volonté d'aller de l'avant en marquant d'une tâche indélébile son mandat en passant aux réformes constitutionnelles et institutionnelles.
Merci Sam de nous avoir appelé. Bonne journée à vous. Daouda, vous nous appelez de Lyon. Vous êtes malien. Vous avez suivi attentivement la situation à Gao où les jeunes sont en colère. Gao, cette ville du nord du Mali. Les jeunes ont manifesté notamment mardi. La manifestation a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Je rappelle qu'il y a eu 4 personnes qui ont été tuées. Vous avez été choqué déjà par l'attitude des forces de sécurité, Daouda?
Effectivement, c'est une situation qui nous met hors de nous-mêmes parce qu'on ne peut pas comprendre que des forces armées maliennes tirent sur sa population et cela est inacceptable. Quand nous avons suivi les informations, effectivement, il y a le lieutenant-colonel Modibo Kouyaté qui l'a dit ouvertement qu'ils ont tiré à balles réelles, mais qu'ils ont tiré dans l'air. Donc je pense que c'est une situation qui est inconcevable et il faut quand même trouver des solutions, des mesures immédiates par rapport à ce comportement. Il faut que des sanctions tombent pour que l'État montre que son autorité s'applique à toutes les populations, à toutes les forces de l'ordre et à tous les citoyens du Mali. Voilà.
Ouais, les jeunes qui réclament maintenant, après les incidents de mardi, le départ du chef de la police et du gouverneur de Gao, qui, selon eux, aurait donné l'ordre aux forces de sécurité de tirer sur la foule. En quelques mots, Daouda, sur les raisons de cette colère, les jeunes disent non aux autorités intérimaires, ces autorités qui vont remplacer les collectivités territoriales qui seront composées de représentants du gouvernement, mais aussi, et c'est là où, que ça pose problème, il y aura des anciens rebelles qui seront dans ces autorités intérimaires. Est-ce que ça vous choque, vous?
Bon, je pense que c'est une situation qui devrait être expliquée. Il n'y a pas eu suffisamment de communication par rapport à cet accord. Ce qui est fait est derrière nous. Et je pense qu'il faut aller de l'avant. Le gouvernement aurait dû prendre en considération les aspirations des peuples du Nord aussi, mais cela n'a pas été fait. Donc les négociations ont été faites seulement avec les groupes armés et la population a été complètement ignorée. Et les jeunes de Gao ont toutes les raisons de manifester leur mécontentement et de montrer leur opposition à ces autorités intérimaires, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ces autorités intérimaires. Si on comprend par intérimaire, cela veut dire que de façon transitoire, après on passe aux autorités légitimes.
Effectivement, avec l'organisation d'élections. En tout cas, vous avez été plusieurs centaines hier à souhaiter réagir sur ces événements.